Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Une, la descente sur terrain des inspecteurs de la police dans les lieux de détention gérés par la PNC à Kinshasa, dans leur viseur des cas d'arrestation arbitraire ou illégale. Vous suivez l'inspecteur Jean-Claude Chibuyanga, superviseur de ces visites. Dans ce journal aussi, le retour hier du ministre d'État de l'Agriculture au Sénat, Mouindo Nzangi est allé apporter des réponses complémentaires aux préoccupations des élus pour justement aider le pays à mieux produire pour nourrir son peuple. Le dialogue entre Congolais revenu hier sur ces attaques des drones enregistrées à l'aéroport de Kisangani dimanche et aussi à Rubaya ainsi qu'à Rumangabo, Nord Kivu. Vous suivrez les analyses des invités. Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité d'abord sécuritaire. Tout cas d'arrestation arbitraire ou illégale dans les viseurs de la police nationale congolaise. Des équipes d'inspecteurs de l'IGPNC, l'inspection générale de la police, mènent depuis lundi des visites de contrôle dans les cachots des commissariats urbains de la police. C'est pour déceler tous ces cas d'anomalies dans la capitale. Déjà, toute personne arrêtée à cause de sa chevelure sans avoir commis d'autres infractions est libérée. Il en est de même pour tout mineur et autre cas de dépassement de délais de garde à vue qui sont également examinés. À travers ces visites, l'inspecteur général Philémon Patience Mouchidiav entend répondre à l'appel du ministre de l'Intérieur de combattre tous les cas de violation des droits de l'homme par les agents de la police. On écoute à ce propos l'inspecteur Jean-Claude Chibuyanga, superviseur de ces visites. Il invite la population à collaborer avec l'IGPNC en dénonçant tout acte contraire à la loi commis par des policiers.
La population ne peut que venir à l'inspection générale pour dénoncer les cas de tracasserie que les autorités sont en train de décrier. Les tracasseries qui sont les œuvres de la police. Donc la population doit venir à l'IG. Nous sommes sur l'avenue de la justice numéro 40 à la Gombe. La population peut encore nous saisir à travers notre antenne qui est à Lemba au niveau du camp Kabila, juste à l'entrée. Alors pour ceux-là qui nous suivent, au-delà de la capitale, dans chaque province, l'inspection générale est représentée dans chaque chef-lieu. Donc la population n'a qu'à nous saisir à travers les plaintes, à travers les dénonciations qui nous permettront à nous d'agir et d'appliquer nos mécanismes qui sont les contrôles, les audits, les enquêtes et l'évaluation. Et vous devez vous rassurer que la plainte chez nous à l'inspection générale, elle est gratuite. Donc des procédures à l'IGPNC de A à Z sont gratuites. Donc la population n'a pas à se lamenter.
L'inspecteur de la police, Jean-Claude Chibuyanga. Parlant à présent de ce cas de meurtre dans la commune de Barumbu, toujours ici à Kinshasa, il s'agit d'un auditeur du cadastre minier décédé lundi des suites de ses blessures, soit 2 jours après avoir été attaqué par des bandits armés à son domicile. Selon le bourgmestre de cette municipalité, la victime, aussi directeur du cadastre minier, avait été grièvement blessée par balle lors de cette incursion, puis transférée dans un hôpital de la place pour des soins. Christophe Lomami exhorte la population à signaler tout cas suspect ou toute attaque à la police nationale afin de permettre une intervention rapide. On l'écoute ici au téléphone de Blaise Ndongala.
Le vendredi 22 mai, vers 2h, qu'il a été visité par une bande de criminels qui croyait trouver tas de dollars chez lui. Malheureusement, en forçant sa porte de la maison et de la parcelle, il s'est rendu compte que le monsieur n'avait rien dans sa maison. Et cette bande de criminels a décidé d'abattre le monsieur. Mais il n'a pas succombé dans sa chambre de la maison. On l'a amené jusqu'à l'hôpital Kakokolo. Ce n'est qu'hier, lundi, qu'il a rendu l'âme. Ce que je peux donner comme conseil à la population de Barumbu, c'est d'être prudent parce que nous sommes des voisins. Quand vous sentez qu'un voisin est menacé, mais il y a des numéros de la police. Nous avons des postes de police qui sont à nos côtés. Pourquoi ne pas appeler? Chacun de nous doit prendre une responsabilité quelconque. Les moyens logistiques posent un sérieux problème, mais dans des cas comme ça, nous avons l'habitude d'engager des motos la nuit et voir comment intervenir.
La République démocratique du Congo est-elle capable de nourrir sa population avec son immense potentiel agricole? En tout cas, le débat est relancé en ce moment où l'on observe une hausse des prix des produits alimentaires sur les marchés congolais, alors que plusieurs zones agricoles restent difficilement accessibles. Revenu lundi devant les sénateurs, après le délai de 48 heures qui lui avait été accordé, le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi, a apporté des réponses complémentaires aux préoccupations soulevées par la gestion du secteur agricole. Face aux élus, il a notamment reconnu des difficultés liées à la distribution des intrants agricoles et à l'accès aux zones de production. De leur côté, les sénateurs ont formulé plusieurs recommandations pour relancer durablement l'agriculture et lutter contre la faim dans le pays. DDT avec Grâce Amzati, notre permanent au Parlement.
Ces échanges à la Chambre haute du Parlement ont une nouvelle fois mis en lumière les difficultés qui freinent encore le développement de l'agriculture en RDC. Devant les sénateurs, le ministre Moïndo Nzangi a reconnu les problèmes liés à la distribution des intrants agricoles ainsi qu'au mauvais état des routes des dessertes agricoles qui compliquent l'évacuation des produits vers les marchés. Dans ses réponses, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la cohérence des politiques agricoles, le financement du secteur et la mécanisation afin d'augmenter la production nationale. Il a également annoncé la mise en place prochaine des crédits bancaires destinés aux jeunes qui souhaitent investir dans l'agriculture avec des textes actuellement en cours de finalisation. Pour lui, le slogan « La revanche du sol sur les sous-sols » doit désormais se traduire par des actions concrètes. À l'issue des échanges, le sénateur Willy Itsundala Asang, auteur de la question orale avec débat, a formulé plusieurs recommandations au gouvernement, notamment la réhabilitation des routes de dessertes agricoles, la création des banques de crédits agricoles, la régulation des prix des denrées alimentaires ainsi qu'une meilleure répartition des intrants de qualité. Les sénateurs estiment que sans mesures concrètes, plusieurs provinces continueront à faire face à la hausse des prix des produits alimentaires et aux difficultés d'accès à la nourriture pour de nombreuses familles congolaises.
Hausse de prix des produits alimentaires, paralysie des activités économiques et fermeture de nombreuses écoles. C'est à Mambasa, en Ituri, que cela se passe et c'est la conséquence de l'insécurité qui pèse lourdement sur la population. Celle-ci dénonce en même temps une situation devenue intenable. Plusieurs localités de la chefferie de Babila-Babombi, en territoire de Mambasa, sont concernées. Précision avec Jean-Claude Lokidile.
Selon plusieurs acteurs locaux, l'accès aux champs agricoles reste difficile pour de nombreux cultivateurs à cause de l'insécurité persistante dans plusieurs villages. Cette situation entraîne une flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché, des produits de première nécessité comme la farine de manioc, les haricots, le riz ou encore les régimes de bananes connaissent une hausse importante. Les mesures de farine qui coûtaient par exemple auparavant 2000 francs congolais se négocient aujourd'hui jusqu'à 15 voire 20 000 francs selon des témoignages qui est sur place. Les activités socio-économiques restent également paralysées dans plusieurs localités touchées par les violences. Les marchés fonctionnent difficilement et les déplacements de population compliquent davantage les échanges commerciaux. Autre conséquence préoccupante, le fonctionnement des écoles. Dans plusieurs zones de la chefferie, les établissements scolaires ont cessé leurs activités. Certaines écoles servent désormais de refuge aux familles déplacées. Selon des sources locales, seules quelques écoles du centre de Tetouri continuent à fonctionner, mais avec un effectif très réduit. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
La RDC se dote désormais d'un cadre normatif national pour les infrastructures et travaux publics. Cela veut tout simplement dire que le gouvernement, via le ministère des infrastructures, lance les travaux d'élaboration de ses règles en matière de construction. C'était hier mardi à Kinshasa. Ce forum vise notamment à aider le pays à relever l'immensité des défis liés aux infrastructures et à se doter des textes garantissant la sécurité des ouvrages tout en assurant la durabilité des infrastructures à travers le pays. Plus de détails avec Blaise Ndongala.
Ce forum réunit plus de 200 participants venus de divers horizons dans le but de faire de la normalisation un pilier de l'action publique en RDC. Pour le secrétaire général à la construction, cette rencontre constitue une avancée majeure pour les secteurs de la construction et du développement urbain. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics est convaincu que ce forum ouvre une nouvelle ère au service des qualités de la sécurité publique et de la durabilité des ouvrages dans tous les pays. John Banzalunda.
La normalisation du secteur des infrastructures et travaux publics exprime la volonté du gouvernement de faire du cadre normatif un instrument de souveraineté, de sécurité publique, de qualité des ouvrages et de bonne gestion des ressources nationales.
Pour sa part, la première ministre estime que l'adoption et la mise en application des normes strictes dans les secteurs des infrastructures et travaux publics répondent à des défis cruciaux d'urbanisation, de sécurité et de durabilité.
Une norme juste, bien élaborée et bien appliquée est une garantie contre les malfaçons, contre le gaspillage des ressources publiques, la fragilité des ouvrages et contre les drames que peuvent provoquer des constructions mal conçues.
La mise en place des normes constitue une première étape juridique et technique essentielle, mais son succès dépendra des sanctions appliquées en cas de non-conformité à travers le pays.
Dossier Ebola à présent, la province de la Tchopo se prépare aussi face à la menace d'Ebola. En tout cas, sur place, l'alerte est maximale. L'église catholique de Kisangani impose déjà un cordon sanitaire pratique vu l'intensité du trafic humain sur la route nationale numéro 4 à l'aéroport de Bamboka. Ces nouvelles de Jacques Moukonkoli sont rendues par Jean-Désiré Kanyama.
Pas de psychose, mais plutôt une vigilance absolue. C'est le mot d'ordre de l'archevêque métropolitain de Kisangani. Dans un message pastoral d'urgence adressé au curé, à presque toutes les paroisses et à l'ensemble des fidèles de sa juridiction pastorale, Monseigneur Marcel Outembita tire la sonnette d'alarme. La raison de cette grande offensive, la proximité immédiate avec le foyer d'Ituri, combinée au mouvement incessant des populations. Pour faire barrage au virus, le prélat catholique exige le respect strict et immédiat des consignes sanitaires. Désormais, dit-il, les habitudes doivent changer, même au sein de l'église. Monseigneur Marcel Outembitapa appelle à suspendre temporairement les traditionnelles poignées de main et les accolades. Des gestes pourtant ancrés dans la fraternité chrétienne. À cela s'ajoutent les règles d'or du ministère de la Santé, lavage régulier des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, interdiction stricte de manipuler du gibier trouvé mort, interdiction absolue de toucher le corps des personnes décédées. Le prélat catholique insiste, face à toute personne présentant une fièvre, une fatigue intense, des vomissements ou des saignements, le mot d'ordre est la distance et le signalement.
Un quoi que tout de même dans la prévention contre Ebola à Beni, la population de ce coin du Nord Kivu est confrontée au manque d'eau potable. Ce liquide précieux ne coule plus des robinets depuis plusieurs mois dans certains quartiers de ce territoire, tandis que d'autres ne sont approvisionnés qu'une ou deux fois la semaine. Pourtant, le lavage régulier des mains avec de l'eau propre et du savon est recommandé car il demeure l'une des principales mesures de prévention contre la maladie selon les experts. Ce problème de manque d'accès régulier à l'eau potable suscite évidemment de vives inquiétudes auprès de la population. C'est ce que nous explique ici Martial Papimoukiba.
Dans plusieurs quartiers de Beni, les habitants peinent à s'approvisionner régulièrement en eau potable. Certains ménages passent plusieurs mois sans être servis en eau malgré les besoins croissants liés à la prévention contre Ebola, une difficulté qui complique notamment les respects des mesures d'hygiène recommandées par les autorités sanitaires. Les responsables de la protection civile à Beni, Jean-Pierre Capitula, estiment que sans un approvisionnement régulier en eau potable, les efforts de prévention risque de se heurter à d'importantes difficultés sur le terrain.
Nous n'avons pas l'eau. L'accès à l'eau potable aujourd'hui, c'est un problème très significatif. Même si nous avons la régie des eaux, mais elle a des difficultés à servir toute la population de Beni. On ne peut pas dire que l'eau est primordiale pour que nous puissions faciliter le lavage des mains et ne pas avoir l'accès facile à cette eau. Le gouvernement doit prendre les responsabilités pour toutes les questions majeures qui nous permettent à rendre facile la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Un défi majeur dans ce contexte de crise sanitaire, d'autant plus que la région de Beni connaît d'importants mouvements de population avec la province voisine de l'Ituri, épicentre de l'actuelle épidémie d'Ebola. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Quittons le dossier Ebola pour parler de ce problème qui dérange particulièrement à Kinshasa. Louer une maison est un véritable casse-tête pour de nombreux habitants. Alors que la loi congolaise encadre la garantie locative qui ne doit pas dépasser les 3 mois, certains bailleurs imposent des montants largement supérieurs aux normes mettant à difficulté les locataires. C'est un reportage signé Jean-Marie Kanaimba.
À Kinshasa, l'uniformisation de la garantie locative devient une préoccupation majeure pour les locataires. Dans plusieurs quartiers, les montants exigés varient d'un bailleur à un autre, certains demandant 4, 5, voire jusqu'à 10 mois de garantie, dépassant largement les dispositions légales. Pourtant, la réglementation congolaise fixe la garantie locative à 3 mois de la valeur du loyer. Face à cette situation, de nombreux locataires expriment leur désarroi.
Je suis locataire dans la commune de Lemba. Par rapport aux garanties locatives, on connaît que la loi dit que la garantie locative d'une maison à cadre non commercial, c'est 3 mois de garantie locative que le bailleur doit percevoir. Mais la réalité sur terrain, ce n'est pas ça.
Il y a des fois, il y a ceux qui réclament 10 mois de garantie, 9 mois, 6 mois. Chacun a sa façon.
Du côté des bailleurs, certains reconnaissent ces pratiques qui les justifient par la crainte de dégâts matériels qui pourraient être causés par certains locataires dans leur maison ou des difficultés de paiement que d'autres occupants pourraient connaître.
Moi, tant que bailleur, nous sommes en train de vivre des difficultés devant nos locataires. Lorsque les locataires, là, ils ne payent pas l'argent comme il faut. Ils payent l'argent de louer difficilement. Il y a des bailleurs qui font ça, mais pas tout le monde.
Plusieurs locataires que nous avons rencontrés appellent les autorités à veiller au respect strict de la loi en cette matière.
Actualité internationale.
Le pape Léon XIV a appelé lundi à une réglementation stricte de l'intelligence artificielle. Il a exhorté ses développeurs à œuvrer pour le bien commun plutôt que pour le profit, en publiant un manifeste ambitieux sur la protection de l'humanité, alors que cette technologie a des répercussions sur tous les domaines du travail à la guerre. Magnifica Humanitas, Magnifique Humanité, la première encyclique de Léon, était très attendue depuis que le premier pape né aux États-Unis de l'histoire avait annoncé quelques jours après son élection qu'il considérait l'IA comme le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui.
L'invité.
2 drones armés ont visé les installations aéroportuaires de l'aéroport international de Bamboka à Kisangani en début de soirée dimanche dernier avant d'être neutralisés en plein vol par des dispositifs de défense des FARDC. Par ailleurs, la situation sécuritaire est restée tendue lundi dans plusieurs localités des massifs Sierra-Tchour au nord Kivu au lendemain des frappes aériennes attribuées à des drones militaires et qui ont visé Rubaya et Rumangabo. Cette situation a été au centre des échanges entre les intervenants dans le dialogue entre Congolais. On les écoute au micro de Guimaté.
Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. C'est quoi votre lecture de ces attaques de drones?
Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que depuis quand même un petit temps, nous arrivons à un point zéro. C'est-à-dire qu'on a eu un accord de cessez-le-feu, un accord qui a été signé à Genève, pour lequel on n'a même pas de résultats sur le terrain. Alors, ce qui est en train d'arriver, c'est que de part et d'autre, tout le monde s'est renforcé. N'était pas renforcé non pas au niveau politique ou diplomatique, etc., mais ils se sont renforcés au niveau sécuritaire. Du côté FARDC, gouvernement congolais, on a vu l'arrivée des instructeurs mercenaires et renforcement de la dynamique de commandement au niveau des FARDC en vue d'avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un coup de force qui va arriver à mettre KO la rébellion en face. Alors, du côté de la rébellion, qu'est-ce qu'on constate? On a vu qu'ils se sont renforcés, eux aussi, au niveau des ressources humaines. Ils ont recruté, formé, et les chiffres que j'ai diffusés par l'AFC M23 parlent aujourd'hui de plus ou moins 42 000 hommes formés et prêts au combat. Et donc, vous avez une situation de stabilité de cessez-le-feu qui ne dit pas son nom. Et donc, de deux côtés, on se renforce. Chacun, maintenant, est en disposition de dire je peux donner l'escatode finale pour pouvoir arriver à l'objectif que je me suis fixé. Malheureusement, c'est là où on est en train d'arriver, où chaque partie maintenant essaye de tester l'autre pour voir quelles sont les capacités des uns et des autres avant d'engager ce qu'on peut appeler la bataille finale.
Merci, Rigen Miviri. Vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches et du groupe d'études sur les Congo, GEC en sigle. Comment vous expliquez le fait que les deux protocoles sur lesquels les deux parties se sont mis d'accord récemment à Montreux en Suisse ne soient pas mis en application? Pourtant, de l'avis de beaucoup d'experts, ce sont les protocoles les plus faciles parmi les oui en discussion dans le cadre du processus de Doha. Qu'est-ce qui est difficile pour appliquer ces deux protocoles, Rigen Miviri? La libération des détenus et la mise en place des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu. Qu'est-ce qui est difficile?
Rien n'est difficile sauf la volonté des partis. Donc, c'est les partis qui ne veulent pas faire la mise en œuvre. Peut-être qu'ils considèrent que ce n'est pas dans leur intérêt de faire la mise en œuvre. Pourtant, on pensait tous que ça pouvait aller très vite. Ou peut-être qu'il y a un intérêt politique dans le statu quo. En réalité, le statu quo signifie quoi? Signifie que celui qui est à Goma continue à être à Goma et celui qui est à Kinshasa continue à être à Kinshasa. Et puis voilà, tout le monde va blâmer la guerre pour ses faiblesses, que ce soit des faiblesses de gouvernance et tout ça. Donc je pense dans une certaine mesure, il y a peut-être un point commun, pour ne pas dire intérêt d'attente entre les parties. de continuer à parler et jouer le pendule, et la situation sera en train de se développer sur le terrain. Et par contre, le terrain peut amener à une plus grande escalade, même si moi je serais plus nuancé que le prof sur le fait que l'on puisse envisager un assaut final. L'assaut final signifierait quoi? L'assaut final signifierait que le F-23 essaie d'aller jusqu'à Kinshasa, ou bien l'assaut final pour du côté du gouvernement, ça serait d'essayer de récupérer Goma. Bon, je ne pense pas qu'il y ait volonté. Peut-être même que les gens soient prêts à aller jusque-là.
Merci Johnson Ishara Boutaragaza. Vous êtes acteur engagé dans la société civile du Nord Kivu. Vous êtes coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente. Vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique. Les statu quo auxquels on assiste seraient consécutifs au fait que les deux parties n'ont pas la volonté de mettre fin à cette situation de guerre, comme l'a dit Rigen Viviri et aussi le prof Bob Kabamba.
Vous avez suivi le président de la République dans sa conférence de presse. Il a dit que il ne sait même pas à quand cette situation va prendre fin. Il n'y a que Dieu qui sait. Je pense que c'est pas Dieu qui dirige. Il y a un homme qui dirige. Vous avez suivi également ce que le ministre des Communications a dit, qu'il faudrait que Ebola, pour qu'il y ait riposte dans ces zones-là, il faudrait que le 1-23 puisse quitter, comme si Ebola vient également sur la table de négociation, que pour que nous venions, vous devez quitter. Donc, il faut quand même s'assumer. Et dans cette situation, le statu quo, ça profite de part et d'autre. On a l'impression comme s'il y a un arrangement de dire...
Un arrangement tacite.
Oui, on se bat, mais chacun reste là où il est.
Mais quel intérêt le gouvernement congolais aurait à entretenir cette situation de guerre?
Justement, c'est ça la grande question que le comité de Montel se poserait.
Et c'est la fin de ce journal que Lévin Bouinga a préparé avec Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci à vous qui nous avez accordé votre attention, votre temps. Passez une excellente journée.